France Inter.
Le journal, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Les batteries des voitures électriques dans le collimateur de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée. Elle réclame de mieux encadrer leur réparabilité. Rarement la présentation du programme de stabilité n'aura suscité autant d'attentes après le dérapage budgétaire de l'année 2023. Le gouvernement fera connaître sa nouvelle trajectoire en Conseil des ministres aujourd'hui. Mais en Europe, il est un pays désormais modèle en la matière, le Portugal. Les athlètes français sur l'or 31 le 26 juillet, ce sera lors de la cérémonie d'ouverture des JO dans tout pile 100 jours. Des sportifs qui connaissent désormais leur tenue, très chic, nous dira Emma Sarango. Et puis football, demi-finale de la Ligue des Champions, victoire, le PSG s'est fait qualifier hier soir face au FC Barcelone, 4 buts à 1. Les Parisiens donc qualifiés pour ces demi-finales, ce sera dans 15 jours.
France Inter.
On connaît l'obsolescence des smartphones, de l'électroménager ou encore des vêtements, mais voilà qu'un autre objet du quotidien vient s'ajouter à la liste, la voiture électrique. Ses batteries précisément. L'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, réclame des normes européennes pour encadrer le véhicule électrique, sachant que les voitures thermiques doivent disparaître du marché d'ici 2035. Un rapport de l'association que nous vous dévoilons ce matin sur France Inter pointe le risque de batteries non réparables. Explication Maxime Glorieux.
La question vire au casse-tête pour les garagistes. Comment réparer une voiture électrique ? Ouvrir la batterie est de plus en plus difficile. Or, la réparation coûte 10 fois moins cher que l'achat d'une nouvelle batterie. Laetitia Vasseur est déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée.
On demande que les batteries soient garanties pendant au moins 10 ans et qu'elles soient disponibles pendant au moins 20 ans. Que la batterie soit trouvable ou qu'on puisse réparer ses composants. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie sur ça.
Fini les pièces détachées, certains constructeurs les ont moulées dans un seul et même bloc. C'est la pratique dite du gigacasting pour un giga gâchis, dénonce l'association. Sans compter l'obsolescence des logiciels intégrés à l'habitacle.
Si vous aujourd'hui vous achetez une voiture électrique à 40 000 euros et que dans 10 ans vous ne pouvez pas la revendre sur le marché de l'occasion, c'est la douche froide en fait. Sur un marché qui est dominé aujourd'hui à près de 75% par le marché de l'occasion. C'est l'avènement de la fast fashion de l'automobile. D'un point de vue de développement durable, d'économie circulaire, c'est complètement scandaleux.
Parmi les recommandations de ce rapport, informer les automobilistes dès l'achat avec un indice de réparabilité comme c'est déjà le cas pour les smartphones.
Et ce marché de la voiture électrique, il va pas très fort en ce moment. Tesla, le pionnier du secteur, connaît même un gros coup de mou. A-t-on atteint le plafond de verre ? Réponse dans 20 minutes avec un spécialiste de l'industrie automobile, Bernard Julien de l'Université de Bordeaux.
La technologie peut tout de même avoir du bon. Pour les agriculteurs, la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime vient de démarrer le déploiement de l'application AgriCivis. C'est un outil gratuit pour permettre aux exploitants agricoles de signaler l'épandage de pesticides à proximité des habitations. Pour l'instant, 5 communes autour de La Rochelle sont concernées. Montroy, Bourgneuf, Clavette, Périgny et Saint-Rogatien. Il s'agit surtout d'apaiser les relations parfois très tendues entre agriculteurs, riverains et associations de défense de l'environnement. Explication Sandy Dauphin.
Les agriculteurs peuvent remplir cette appli AgriCivis pour prévenir quand ils vont effectuer un épandage de pesticides et préciser la nature des produits utilisés. Les riverains situés dans un rayon de 50 mètres seront informés avant le début des opérations. Cet outil sera testé dans 5 communes sur la base du volontariat. Cédric Trancard préside la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime.
On peut s'en servir pour l'épandage, mais ça peut être pour plein d'autres choses. La récolte, on sait qu'il va y avoir de la poussière au moment de la récolte. Les gens sont prévenus. C'est vraiment pour les secteurs où il y avait eu des soucis entre les agriculteurs et les riverains pour qu'il y ait une meilleure compréhension de chacun.
Un outil pour apaiser le climat général dans cette plaine céréalière proche de La Rochelle, marquée par une concentration de cancers pédiatriques. Marie Beaumard est juriste à l'association Nature Environnement en Charente-Maritime. Pour elle, cette appli est un premier pas vers plus de transparence, mais c'est loin d'être suffisant.
Nous, ce qu'on demande surtout, davantage que prévenir les gens, ce qui est largement insuffisant conséquemment aux enjeux, c'est en fait d'augmenter les distances légales de sécurité à respecter entre la zone où les épandages et les pesticides sont présents et les riverains. Et ça, il y a litige là-dessus.
Aujourd'hui, la réglementation prévoit des distances de sécurité entre les maisons et les champs de 20 mètres, 10 ou 5 selon le type de culture et de pesticides. Cette distance peut parfois être réduite à 3 mètres en fonction du matériel de pulvérisation utilisé.
Sandy Dauphin. Le centre hospitalier Simone Veil de Cannes, touché par une cyberattaque depuis hier matin. Le parcours de santé des patients n'est plus informatisé, mais sur papier. Conséquence, un hôpital en mode dégradé. Les opérations chirurgicales qui le peuvent sont reportées de quelques jours. Le service des urgences reste, lui, assuré. Une fusillade a fait 4 blessés légers et un grave hier soir à Nîmes, dans un quartier en proie au trafic de drogue. Les faits se sont produits vers 20h dans le quartier du chemin bas d'Avignon. Des personnes à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes réunis au pied d'un immeuble. Les trois tireurs ont pris la fuite. Quelles seront les grandes tendances économiques pour les prochaines années? Le programme de stabilité budgétaire doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Autant dire qu'il sera particulièrement observé après l'annonce d'un déficit public de 5,5% du PIB en 2023. Avant-dernière place des pays européens, sans parler de la dette publique qui atteint, elle, 110,6% du PIB. Le ministre de l'économie évoque des recettes fiscales moins élevées que prévues, ajoutées au contexte international pour le moins chaotique. Pourtant, Gwendal Lavina, la plupart des pays européens font mieux, à l'instar du Portugal, désormais un modèle en la matière.
L'an dernier, pour la première fois depuis 2010, Lisbonne est même parvenue à faire passer sa dette publique sous le seuil de 100% du PIB, à 99,1%, de quoi faire pâlir d'envie la France, d'autant que le Portugal a aussi enregistré un excédent budgétaire de 3 milliards d'euros. À l'origine, la hausse des recettes fiscales et des cotisations permises par la création d'emplois et la hausse des salaires, due à une croissance beaucoup plus forte qu'ailleurs en Europe, 2,3% contre 0,9% pour la France l'an dernier. Les dépenses publiques ont aussi progressé, mais sans peser sur les finances nationales. Un résultat qui a surpris le gouvernement socialiste, pourtant battu par la droite lors des dernières élections en mars. C'est en fait dans les années 2000 que le Portugal a subi un traitement de choc. Vaste programme de privatisation, retraite passant de 60 à 65 ans ou encore forte hausse de la TVA. Austérité encore renforcée après la crise de 2009 qui a modifié durablement les fondamentaux économiques du pays.
Gwendal Lavina, l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, désormais assignée à résidence selon le porte-parole de la junte militaire au pouvoir. La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, arrêtée lors du coup d'État de 2021, était jusqu'alors emprisonnée. Une décision prise alors que les températures sont extrêmement élevées en Birmanie. Football, le Paris Saint-Germain a renversé hier soir le FC Barcelone, 4-1, et il s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, but également de Dembélé et de Vitinha. Nos amis commentateurs du match de France Info ne s'en sont pas remis.
Kylian Mbappé, le 4-1, la qualification pour le Paris Saint-Germain, c'en est fini. Le silence de cathédrale à Montjuic pour la qualification parisienne.
Et Paris sera
4-1. 4-1 pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le doublé.
Quelle folie. Les Parisiens peuvent désormais rêver car la finale semble plus que jamais possible. Leur futur adversaire sera le Borussia Dortmund dans 15 jours. Mais attention, comme l'explique Kylian Mbappé, il faut se méfier des Allemands.
Non, je suis fier d'être ici depuis le premier jour. C'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial, moi qui ai grandi ici. Donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand. Mais voilà, on a passé une étape de plus et il faut rester tranquille.
Et ce soir, deux autres quarts de finale, retour Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich face à Arsenal.
Un contron dans le compte à rebours, les JO de Paris, c'est dans tout pile 100 jours.
Et les athlètes français, qui seront les derniers à parader, seront habillés par Berluti, l'une des marques de luxe du groupe LVMH, partenaire premium des Jeux Olympiques. Une tenue spéciale cérémonie qu'Emma Sarango a pu découvrir en avant-première.
À première vue, l'ensemble est très classique, smoking bleu nuit, veste manche longue pour les hommes, sans manches pour les femmes, mais à la lumière se détache le col châle.
Le col châle, c'est le revers d'une veste.
Agnès Filliot, directrice de production chez Berluti.
On l'a travaillé en dégradé, en reprenant le bleu, blanc, rouge.
En dessous, une chemise blanche et puis un pantalon bleu nuit encore, ou jupe longue pour celles qui le souhaitent. Le tout fabriqué en Italie à 1500 exemplaires, une quantité quasi industrielle pour une maison qui d'ordinaire produit 200 pièces par modèle.
On a utilisé 18 000 boutons. C'est vrai que pour nos fournisseurs, c'était une commande incroyable parce que nos fabrications sont un peu plus confidentiel en termes de volume.
Autre bouleversement pour la maison Berluti, habiller aussi bien une gymnaste d'1m50 que des basketteurs de 2m20.
Sur les chaussures, on a développé 8 tailles de plus par rapport à nos tailles standards, c'est-à-dire qu'on passe du 34 au 56. Les athlètes hors standard pour nous auront des tenues en effet à leur mesure dans tous les cas.
Des tenues en matière très légère, car même si le 26 juillet est caniculaire, les athlètes devront les porter pendant environ 8 heures.
Et cette tenue sera aussi celle des athlètes paralympiques pour leur cérémonie d'ouverture le 28 août.
Laurence Thomas, et parmi ces athlètes français, nombreux sont ceux qui passent par l'INSEP pour se préparer, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, qui accueille aussi parfois des athlètes étrangers. C'est ce qu'on va voir dans votre Esprit Sport, Guillaume Batin. Bonjour.
Bonjour Mathilde.
À l'INSEP, on peut croiser par exemple la combattante afghane Zakia Koudadadi.
Ouais, c'est une vraie combattante sur le tapis en para-taekwondo, mais aussi dans la vie. Zakia se fait connaître en 2021, peu avant les Jeux Paralympiques de Tokyo, où elle doit se rendre. Mais les talibans prennent le contrôle de Kaboul. Elle est coincée, elle trouve refuge avec un autre athlète dans un appartement de la ville, d'où elle lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Voilà, dans sa langue locale, nationale, l'appel est entendu à travers le monde. 42 heures après, elle est exfiltrée et passe par Paris avant de rejoindre le Japon pour les Paralympiques. Après les Jeux, elle est accueillie à l'INSEP à nouveau. Elle vit encore aujourd'hui. Une partie de sa famille d'ailleurs la rejoint en région parisienne. Elle se prépare encore aujourd'hui avec l'équipe de France de para-taekwondo.
Ici, c'est pas différent en Afghanistan. En Afghanistan, j'ai... entraînement dans la petite chambre, 9 mètres. Ici,
voilà, donc elle parle français, elle prend des cours de français, son niveau est encore hésitant. Je vais à l'essentiel de ce qu'elle raconte, que les conditions d'entraînement n'ont rien à voir entre Kaboul et Paris, évidemment, et qu'elle se bat pour les femmes afghanes, qui là-bas n'ont quasiment le droit de rien faire, à part de rester à la maison et surtout pas de faire du sport. Zakia Koudadadi obtient une bourse et le titre de championne d'Europe l'été dernier à Rotterdam, sous la bannière des réfugiés. Mais son objectif principal est d'obtenir le droit de combattre avec l'équipe de France, pour la France, pour son pays d'accueil.
Guillaume Batin pour l'Esprit Sport. Et nous retournerons à l'INSEP à 7h15 pour la suite de notre série de Zoom Olympique.